Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Au programme aujourd'hui, le Kenya abritera une usine de smartphones bon marché, l'ONU a réagi à l'initiative de paix africaine en Ukraine et Moscou qui fustige la déclaration raciste d'un diplomate européen sur les Africains. Les présidents russes et algériens ont signé à Moscou une déclaration de partenariat stratégique approfondi. Un expert en sécurité internationale et un économiste algérien décrypteront ce qui changera concrètement dans les relations entre Moscou et Alger. Un forum d'affaires russo-algérien s'est tenu à Moscou. Deux hommes d'affaires algériens et un responsable russe présenteront l'état et les perspectives de la coopération entre les deux pays. La République de Guinée célèbre 65 ans de relations diplomatiques avec la Russie. L'ambassadeur de ce pays à Moscou donnera à notre micro des pistes pour élargir davantage la coopération russo-guinéenne. Des smartphones bon marché seront bientôt fabriqués au Kenya. Selon un site spécialisé africain, la société angolaise Lira Link Technology et l'entreprise chinoise ZTE ont pris la décision de construire un site industriel dans ce pays. Sa mise en service est prévue en 2024 et son implantation permettra de commercialiser des téléphones de qualité à des prix abordables. Lucia Yang, une responsable commerciale de la ZTE, a indiqué que sa société disposera aussi d'un centre d'assistance pour répondre aux besoins des clients. Selon la publication, l'accord de partenariat portant sur la construction de cette usine a été signé le 13 juin, en marge du Forum international sur les technologies de l'information et de la communication de l'Angola. Les documents ont été paraphés en présence du ministre angolais des Télécommunications, Mario Oliveira, et des hauts responsables des entreprises. Pour rappel, l'Angola n'est pas le premier pays à avoir annoncé son entrée sur le marché de la production de smartphones à bas prix. Le mois dernier, le Kenya a déclaré par l'intermédiaire de son secrétaire d'État à l'information qu'elle mettrait sur le marché au moins 1 million de smartphones à prix abordable. Ils ont la particularité d'avoir été assemblés localement et leur mise en vente se fera au cours des deux prochains mois. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les efforts entrepris par la mission africaine de paix pour l'Ukraine. Monsieur Guterres a réagi en déclarant qu'il encourageait toujours les efforts qui menaient vers la paix. Il a salué une initiative importante, appuyée par une bonne volonté d'un nombre de pays importants. Cette déclaration est intervenue lors d'une conférence de presse à New York, à la veille d'un déplacement important. Aujourd'hui, le 16 juin, la délégation présidée par Azali Assoumani, le dirigeant de l'Union africaine et de l'État des Comores, se rend à Kiev en compagnie des présidents d'Afrique du Sud, de Zambie, du Sénégal, d'Ouganda, de la RDC, ainsi que du Premier ministre égyptien pour mener des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le 17 juin, ils prendront ensuite la direction de Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Moscou n'a pas du tout apprécié les propos d'un haut diplomate roumain en poste au Kenya. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a condamné l'attitude de Dragos Viorel Tigao, ambassadeur roumain à Nairobi qui avait comparé ses collègues africains à des singes. Pour Madame Zakharova, cette sortie hasardeuse reflète ce que l'Occident pense réellement des Africains. Elle n'a pas manqué de rappeler que ce n'était pas la première fois qu'une déclaration de ce type était faite par un représentant européen. Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité, avait affirmé que le monde était divisé en un beau jardin et une jungle sauvage. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, après ces aveux monstrueux, les diplomates européens auraient pu ajuster leur rhétorique, mais la nature fait son œuvre et jaillit. Pour rappel, suite à ces propos de l'ambassadeur roumain au Kenya en avril dernier, un scandale diplomatique a éclaté entre Nairobi et Bucarest. Les diplomates africains avaient condamné le comportement de leur homologue roumain et publié une déclaration soulignant l'importance de créer une atmosphère de respect mutuel, de compréhension et de sensibilité dans la sphère diplomatique. Macaria Kamo, ex-ministre des Affaires étrangères du Kenya, avait dénoncé sur les réseaux sociaux une véritable honte d'avoir tenté de dissimuler une telle ignominie, intolérable et inacceptable au XXIe siècle. Face au scandale, Bucarest a finalement rappelé son ambassadeur un mois plus tard. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Abdelmajid Tebboune a été reçu en grande pompe au Kremlin par Vladimir Poutine. À l'issue de pourparlers qualifiés de productifs, Une déclaration de partenariat stratégique approfondi a été signée par les deux chefs d'État. Ce document permettra de renforcer encore davantage les relations entre Moscou et Alger. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé à ce sujet juste après avoir paraphé la déclaration avec son homologue algérien. Il a qualifié les relations entre les deux pays de réellement constructives et mutuellement avantageuses. Je vous propose tout de suite d'écouter le président russe.
Nous sommes très heureux de vous voir ici. Les relations avec l'Algérie sont pour notre pays des relations d'une importance particulière, je dirais même stratégique. En avançant dans cette salle avec le président, nous sommes souvenus que les relations entre la Russie et l'Algérie étaient nées dans les années 50, et on pouvait dire déjà à l'époque que ces relations avaient un caractère stratégique sans exagération, et les relations entre le peuple russe et le peuple héroïque, courageux de l'Algérie, qui s'est battu pendant des années pour son indépendance.
Outre la déclaration de partenariat stratégique approfondi, les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération concernant les secteurs des technologies militaires, de la justice, de l'exploration spatiale, de l'agriculture, des ressources en eau, des médias et de la culture. Toutefois, cette visite du président algérien cachait d'autres enjeux. Pour rappel, Alger est candidat à l'adhésion au BRICS, un groupe économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La question de l'élargissement du groupe des cinq est à l'ordre du jour et le prochain sommet, prévu en août prochain à Johannesburg, est déjà très attendu. Pour décrypter les dessous de cette visite en Russie d'Abdelmajid Tebboune et pour mieux comprendre ce qui va changer dans les relations entre Moscou et Alger suite à la signature d'une nouvelle déclaration de partenariat stratégique, nous nous sommes adressés au docteur Abdelkader Mardal, économiste algérien, et le docteur Mohamed Salah Djemal, expert algérien en sécurité internationale. Écoutons-les. Monsieur Merdal, l'Algérie a été le premier pays en Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une déclaration de partenariat stratégique. Comment expliquer le besoin d'un nouveau document ?
Pour le partenariat stratégique, il est important quand même de revoir la copie de 2001 parce que le changement opéré en Algérie dans le domaine économique et celui enregistré en Russie le changement carrément des situations dans les deux pays et bien sûr l'environnement international aussi. Tout a changé et nous devons faire face de nouveaux enjeux dans la relation entre les deux grands pays. Alors, pour la Russie, c'est un grand pays ami pour l'Algérie depuis sa révolution. L'Algérie entretient avec la Russie donc des relations très privilégiées, notamment dans le domaine militaire, mais aussi la sphère civile a besoin d'une meilleure intervention des opérateurs russes en Algérie et des opérateurs algériens en Russie. Les priorités ont changé, le climat a changé, tout a changé, le climat d'affaires a changé, les enjeux ont changé. Donc tout ça mène à ce besoin d'aller vers un meilleur partenariat qui va cibler les besoins des uns et des autres.
Monsieur Djemal, selon vous, que signifie ce document pour les relations entre les deux pays ? Qu'est-ce qui va changer ?
Ce document est une preuve des relations historiques entre la Russie et l'Algérie qui datent depuis les années 50. Et cela signifie une fidélité algérienne vis-à-vis de la Russie par rapport à ses positions pendant la révolution algérienne et après dans les crises sécuritaires vécues par l'Algérie. Donc ce document signifie un approfondissement des relations entre la Russie et l'Algérie. Les relations russo-algériennes vont s'approfondir pas pour l'aspect militaire uniquement, mais pour l'aspect économique et régional en Afrique.
Monsieur Merdal, le président algérien Abdelmajid Tebboune est arrivé à Moscou avec une vaste délégation de ministres et de responsables. Quels sont les enjeux de cette visite ?
pour les enjeux de la visite, il est clair que l'Algérie cherche à diversifier ses relations économiques et à sortir de la coquille qui jusque-là a fait que des échanges se font dans un sens avec certains pays dans le monde, les grandes puissances enfin occidentales, surtout d'une manière précise. Alors l'Algérie a besoin d'une bouffée d'oxygène qui va lui permettre de diversifier ses partenaires. Et la Russie a cette capacité à changer la donne. Donc, vous avez en Russie un grand marché attractif, que ce soit pour l'investissement ou le commerce. Et bien sûr, vous avez des secteurs d'activité qui sont développés dans le domaine minier, dans le domaine des transports, dans le domaine industriel d'une manière générale, dans l'agriculture, sans oublier bien sûr le domaine du savoir, là où le système éducatif et universitaire en Russie est très développé. Donc tous ces domaines donnent quand même de la visibilité pour la partie algérienne, à donner de l'impulsion à la relation avec la Russie en touchant à tous ces domaines qui sont très importants pour l'Algérie.
Monsieur Djemal, parmi les accords signés figure notamment celui de l'exploration spatiale. Quels enjeux se posent devant l'Algérie en la matière ?
Depuis l'arrivée du président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie entame dans des projets dans l'aspect spatial. Et ce document ou ces accords dans ce domaine vont aider l'Algérie en matière de gestion des catastrophes naturelles, des prévisions des catastrophes naturelles et des interventions en urgence dans les questions des catastrophes naturelles notamment.
D'après Vladimir Poutine, l'Algérie se montre intéressée par le développement du nucléaire. L'agence russe de l'énergie atomique Rosatom s'est dite prête à participer dans des projets conjoints. Comment le nucléaire peut-il contribuer au développement de la médecine et de l'agriculture dans votre pays ?
Depuis l'arrivée du président Abdelmajid Tebboune, les autorités algériennes ont entamé dans des nouveaux projets énergétiques. Contrairement aux énergies traditionnelles, parlant du nucléaire civil, c'est pour rassurer les Occidentaux. Je pense que il y avait, je me rappelle qu'en 2006, il y avait déjà le ministre russe de l'industrie, Viktor Kristenko, est venu à Alger pour annoncer le début du contrat entre les experts des deux pays pour étudier les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine nucléaire. Donc, ça date depuis 2006 entre l'Algérie et la Russie. Voilà, donc voulant profiter de sa relation traditionnelle avec l'Algérie, voilà, donc même Moscou n'entend pas rester dans le fond de la salle pour arracher des contrats lorsqu'Alger lancera son programme stratégique de construction de centrales atomiques pour production à terme d'énergie électrique aussi.
Monsieur Merdel, la Russie et l'Algérie sont toutes les deux d'importants producteurs de gaz. Comment les deux pays pourraient-ils travailler ensemble dans le domaine de l'énergie ?
Oui, bien sûr. Là aussi, nous avons des enjeux en commun. C'est des enjeux en commun qui sont liés directement avec un marché en perturbation en continu. Nous avons quand même des fluctuations qui se font sentir. Nous avons des situations qui pèsent un peu lourd sur les pays producteurs et les pays exportateurs. De ce fait, l'Algérie a besoin de quand même, et la Russie ont besoin de cette concertation OPEP, hors OPEP, pour arriver à stabiliser quand même les revenus à l'exportation des deux pays et du groupe des producteurs d'une manière générale. Donc, cette concertation va jouer, bien sûr, en faveur de la stabilisation des marchés d'une manière générale et de faire face aux ambitions de certains consommateurs qui veulent avoir accès aux ressources énergétiques à moindre coût et coûte que coûte. Donc, c'est ce qui ne range pas les intérêts des pays producteurs. Alors, cette concertation, quand même, va pouvoir donner quand même la possibilité de défendre les intérêts de la Russie, les intérêts de l'Algérie et la valorisation de leurs ressources énergétiques.
Monsieur Djemal, l'Algérie est l'un des plus grands partenaires militaires de la Russie. Les pays ont notamment convenu d'élargir le transfert de technologies. Quelle perspective un tel transfert pourrait s'ouvrir à l'Algérie ?
Vous savez que l'aspect militaire joue un grand rôle entre l'Algérie et la Russie. Et l'élargissement ou le transfert des technologies nucléaires entre l'Algérie et la Russie va contribuer notamment, je pense que avec les menaces de cybersécurité, je pense que l'Algérie doit profiter de l'expérience ou l'expertise russe dans ce domaine. Et je pense bien que la cybersécurité sera le facteur primordial dans ce transfert des technologies militaires. Et la Russie va aider l'Algérie dans ce domaine. Notamment, vous savez qu'on est dans le milieu des menaces sécuritaires et vous savez le dernier scandale de Pegasus.
Monsieur Merdal, malgré la pression occidentale, l'Algérie n'a pas soutenu les sanctions contre la Russie. Des sénateurs américains ont à cet égard appelé à sanctionner l'Algérie elle-même. Et aujourd'hui, malgré toutes ces menaces, le président algérien et en Russie signent d'importants accords. Ces menaces peuvent-elles, d'après vous, avoir une influence sur la politique des autorités algériennes à l'encontre de la Russie ? Quels commentaires pouvez-vous nous faire ?
En fait, certaines parties occidentales veulent quand même sanctionner l'Algérie, que ce soit dans le cadre de sa relation directe avec la Russie dans cette conjoncture de conflit avec l'Ukraine. Mais il faut observer une chose, c'est que certains occidentaux, certains députés américains, ils sont contrariés par rapport aux politiques appliquées en Algérie, que ce soit à l'international, ce qui leur donne quand même une opportunité pour eux, entre parenthèses, juste une opportunité pour eux pour essayer de faire aboutir leurs besoins par rapport à l'Algérie. Mais il est difficile d'empêcher quand même l'Algérie à coopérer avec la Russie, tout simplement parce que nous avons quand même une situation un peu particulière dans la relation entre les deux parties. Plus de 50 ans de relations et d'échanges très fructueux entre les deux parties. Il n'est pas facile de dépasser cette particularité. Alors l'Algérie a donné son avis, a donné sa position par rapport à la relation avec la Russie dans le cadre de ses intérêts et dans le cadre de sa vision. Elle ne peut pas prendre des décisions qui vont être contre sa politique internationale. À partir de là, les échanges avec la Russie ne se font que se développer et tout le monde voit que cette visite, elle va permettre quand même d'engager plus d'échanges, que ce soit dans le domaine commercial ou le domaine des investissements. Et bien sûr, tout cela permettra à l'Algérie de diversifier bien sûr ses marchés, diversifier ses partenaires et en même temps de passer vers plus de créer les conditions d'une meilleure indépendance par rapport au bloc occidental.
Monsieur Djemal, et que pensez-vous des conséquences possibles de cette pression de l'Occident ?
Je pense que l'Algérie a ses propres décisions en ce qui concerne ses stratégies et ses politiques ou sa coopération avec n'importe quel pays. Le président Abdelmadjid Tebboune a une fois passé déclaré que l'Algérie est l'ami de tous les pays, même les États-Unis. Donc, l'Algérie est connue par sa souveraineté en question de décisions stratégiques. L'Algérie est connue par sa souveraineté en question de prise de décision. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a bien déclaré que le peuple algérien et les autorités algériennes ont connu par leur neutralité en ce qui concerne la prise de décision. Je pense que ces pressions n'auront jamais une influence ou un impact sur le parcours des relations russo-algériennes.
Monsieur Merdal, en 2021, la Russie a repris ses livraisons de blé à l'Algérie après une interruption de 5 ans. En 2022, le volume des livraisons de blé russe à l'Algérie a atteint 1,3 million de tonnes. Comment ce chiffre a-t-il pu être atteint malgré les sanctions occidentales contre la Russie, à votre avis? Est-ce que l'Algérie envisage de continuer à importer des produits agricoles russes? Et que pensez-vous des sanctions imposées aux produits alimentaires et aux engrais russes?
Ces sanctions, je vais qualifier ça de la surenchère. C'est de la surenchère de la part des occidentaux. Pourquoi? Parce que quand on touche à l'agriculture, à l'alimentation, ça veut dire qu'on va toucher à la sécurité alimentaire des peuples du monde. Il n'est pas aisé de trouver l'alimentation qu'il faut pour couvrir la demande mondiale. On le sait très bien. D'ailleurs, c'est l'outil de pression utilisé par l'Occident, c'est justement d'arrêter l'approvisionnement de certains marchés en produits alimentaires. On a vu en Irak comment ils ont affamé le peuple irakien à partir de leurs sanctions, et donc ils l'ont fait avec d'autres peuples, d'autres pays. C'est à partir de là que je qualifie de surenchère le fait de sanctionner les exportations russes en matière agricole et alimentaire. Donc, de ce fait, en tout cas, les achats de l'Algérie du blé russe rentrent dans le cadre de la diversification aussi des approvisionnements du marché algérien. L'Algérie était dépendante de certains marchés, et surtout celui de la France, il faut le dire. Donc une partie très importante des importations de l'Algérie dans ce domaine venait de certains pays. Donc c'est à partir de là que l'Algérie a voulu diversifier ses partenaires. Et bien sûr, la Russie, c'est un grand partenaire. Pourquoi pas d'aller vers tout ce qui est céréales? C'est ce qui change la donne dans la relation avec le reste du monde pour l'Algérie. Alors, c'est dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt de la diversification de son approvisionnement et une meilleure sécurisation de son approvisionnement qui fait que l'Algérie cherche d'autres partenaires et à leur tête la Russie, bien sûr.
Monsieur Djemal, Moscou et Alger se sont mis d'accord pour encourager les transactions en monnaie nationale en réduisant l'utilisation du dollar et de l'euro. Comment expliquez-vous ce souhait à trouver une alternative au dollar ?
L'Algérie, les autorités officielles algériennes marchent vers une direction de ce qu'on appelle un monde multipolaire. L'Algérie a toujours plaidoyé pour un monde multipolaire, pas uniquement dans la politique internationale, mais aussi dans l'économie internationale. Donc, l'Algérie va jouer un rôle aussi, notamment après la défaite des sanctions économiques occidentales vis-à-vis de la Russie, qui ces pays occidentaux ont voulu restreindre la monnaie russe, donc ils ont échoué dans leurs efforts. Donc l'Algérie a toujours une croyance dans ce qu'on appelle un monde que ce soit politique ou économique multipolaire.
Le président algérien a déclaré lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine qu'il était nécessaire d'accélérer l'entrée de l'Algérie au sein des BRICS. Pourquoi Alger veut-il se joindre au groupe?
L'Algérie veut intégrer le BRICS parce que le BRICS, vous savez, il représente 41% de la population du monde, 40% de sa superficie et 24% de l'économie mondiale et 16% du commerce mondial. Donc, cela représente une alternative contre l'intégration de l'Algérie dans l'Organisation mondiale du commerce. L'Algérie voit que le BRICS, c'est une bonne alternative pour bien changer l'économie internationale dominée par les pays occidentaux. Le BRICS joue un rôle comme une alternative pour les pays rejetés par les pays occidentaux ou qui veulent obliger des autres pays à accepter leurs mesures qui ne sont pas incompatibles peut-être avec leur politique économique intérieure.
Et selon vous, Monsieur Merdal, quels sont les avantages pour l'Algérie d'adhérer au BRICS?
L'Algérie, elle va avoir deux grands avantages. Le premier niveau de ces avantages est en relation avec la normalisation des procédés économiques et commerciaux et d'investissement ici en Algérie. C'est-à-dire de passer de la vision nationale à une vision qui va prendre en charge les intérêts de tout un groupe de pays. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ces pays-là qui constituent le BRICS, ce groupe-là, il y a quelques années, il tirait l'économie mondiale vers plus de croissance. Si ce n'était donc ces évolutions en relation avec la crise économique, surtout après le Covid, etc., qui a freiné la croissance dans ces pays, et puis les conflits créés par cette ambition occidentale d'une manière très très précise à sanctionner certaines forces, certaines puissances économiques comme la Chine. Le conflit avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine, a perturbé le cours de la croissance mondiale, qui touche négativement donc la performance du groupe. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique du groupe, en relation avec les avantages financiers, les avantages d'ouverture pour les marchés, les avantages en relation avec la demande importante dans ces pays, et l'avantage aussi de la créativité, de l'évolution technologique très performante dans les pays constituant donc le groupe, ce qui fait que pour l'Algérie, c'est une opportunité certaine pour quand même bénéficier d'une relation privilégiée, donc que ça soit dans le domaine du commerce, dans le domaine du financement, des investissements, dans le domaine des IDE, donc des investissements directs étrangers, et puis dans le développement technologique que l'Algérie aspire à avoir dans le numérique, dans tout ce qui est dans l'industrie, dans les TIC, etc. Cette adhésion va permettre à l'Algérie d'avoir une relation privilégiée, bien sûr, avec des puissances technologiques, financières, certaines. Et puis, ce groupe-là est constitué de pays en relation très importante avec l'Algérie.
C'était le docteur Abdelkader Merdal, économiste algérien, et le docteur Mohamed Salah Djemal, expert algérien en sécurité internationale. Ils ont décrypté pour Spoutnik Afrique les dessous de la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Russie et les raisons de la demande d'adhésion d'Alger au BRICS. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. En marge de la rencontre entre Vladimir Poutine et Abdelmajid Tebboune, le forum d'affaires russo-algérien intitulé « Les possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l'Algérie » s'est tenu à Moscou le 14 juin dernier. Monsieur Tebboune a participé à cet événement. Selon le dirigeant algérien, les deux États ont de très fortes opportunités en termes de coopération dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et des sciences. Nous avons demandé à Abdennour Souakri, PDG du groupe Souakri, Yassine Ben Slimane, directeur général d'Air Algérie, et Maxime Tcherechnev, membre du conseil général de l'organisation russe Dialovaya Rassiya, de nous faire part de leurs attentes à l'égard du forum et de l'évolution des relations entre les deux pays. Et écoutons-les. Monsieur Souakri, qu'est-ce que vous attendez de cet événement?
On attend beaucoup de cet événement, surtout beaucoup d'échanges commerciaux, parce que la balance commerciale entre l'Algérie et la Russie, elle est très, 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 très loin de... donc, les échanges d'exportation de l'Algérie vers l'Algérie, ils sont de 18 millions de dollars, et nous sommes classés 17e par rapport aux autres, donc c'est pas beau ça. Il faut qu'on monte un peu, et vu les les relations qui existent entre l'Algérie et la Russie, c'est une vieille histoire. Donc, j'espère que avec ce forum, les choses vont au mieux pour tout le monde.
Et vous, Monsieur Ben Slimane, pensez-vous que ce forum va aider à élargir la coopération entre l'Algérie et la Russie ?
Et ça, c'est vraiment clair que ça va permettre justement de rapprocher encore plus les deux capitales, compte tenu qu'on est entre partenaires historiques, hein, les Russes et Algériens. Et aujourd'hui, donc, via ce type de rencontre, il n'y aura qu'un renforcement économique entre les deux parties. Pour ce qui est de la partie algérienne, nous attendons à ce qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de coopération avec des sociétés russes, que ça soit ici en Russie ou en Algérie ou à travers l'Afrique. Voilà. Donc voilà, nous attendons énormément de ces événements pour le rapprochement entre les deux peuples et les deux capitales.
Monsieur Tcherechnev, bien que l'Algérie soit aujourd'hui l'un des principaux partenaires de la Russie en Afrique, les échanges entre les deux pays, comme l'a souligné à juste titre M. Souakri, peuvent encore se développer. Quelles sont les mesures à prendre pour les accroître encore? Et quels sont les domaines prioritaires?
Tout d'abord, je dois dire que l'Algérie est la quatrième économie d'Afrique en termes de PIB et qu'historiquement, l'Algérie a une attitude positive à l'égard de la Russie. Nous constatons cette attitude de la part des entreprises et des dirigeants du pays. Étant donné que l'Algérie compte 44 millions d'habitants, soit un tiers de la population russe, il s'agit d'un marché assez important. En outre, il convient de préciser que la Russie et l'Algérie pensent la même chose concernant la production de pétrole. C'est pourquoi la priorité est l'industrie pétrolière et tout ce qui s'y rapporte. Ensuite, les ressources agricoles, les céréales et toutes les ressources dont l'Algérie ne dispose pas. Enfin, les technologies de l'information qui sont très avancées en Russie. Nous sommes ici en tant que conseil de développement du commerce extérieur pour accompagner les entreprises sur les marchés étrangers. Et nous voyons un grand potentiel pour le secteur des technologies de l'information. Avec plus de 80 régions et plus de 1000 villes dans le pays, nous avons mis en place différentes versions d'administration de l'État et des municipalités. Nous avons d'excellents développements à cet égard qui ne sont pas seulement testés mais qui fonctionnent avec succès. Du système des transports publics au système de logement, et de services communaux, de la gestion de la ville à la gestion des relations avec les résidents, en passant par les routes nationales. Ce sont des éléments dont tout État a traditionnellement besoin. Ces solutions numériques que nous avons, bien sûr, peuvent être et seront demandées.
Monsieur Souakri, et selon vous, quels sont les autres domaines dans lesquels la coopération pourrait être développée?
On peut développer dans le domaine de l'agriculture, comme nous avons les primeurs en Algérie, quand ici, en Russie, en Europe, c'est les verts, il n'y a pas de primeurs comme la tomate, comme les concombres. Nous, on est producteurs au sud, au Sahara, on fait ça. Donc, l'agriculture, par exemple, les produits agricoles, beaucoup de produits à exporter vers la Russie.
Monsieur Ben Slimane, vous êtes le directeur général d'Air Algérie. Qu'en est-il de la coopération entre les pays dans le domaine du tourisme?
En ce qui nous concerne, nous, on est transporteur, Air Algérie est transporteur et la compagnie aérienne numéro 1 en Algérie, avec plus de 8 millions de passagers transportés chaque année, avec une très forte présence sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous attendons énormément des Russes à venir voyager déjà en Algérie, puisque l'Algérie dispose d'un potentiel touristique très impressionnant, notamment sur le sud algérien, avec dernièrement même des ouvertures de lignes directement de l'Europe, mais aujourd'hui avec un réseau autour du hub d'Alger qui est très intéressant et qui permettrait aux Russes de rejoindre via les lignes de notre compagnie, bien évidemment, toutes les régions d'Algérie où on a vraiment une très forte présence sur tout le territoire algérien, notamment sur de 32 aéroports en Algérie. Effectivement, il y a des échanges entre des groupes touristiques russes et des agences de voyage touristiques russes et puis ceux d'Algérie pour justement créer des produits qui soient adaptés justement à la population russe qui est à la recherche justement d'un tourisme saharien vers l'Algérie.
Monsieur Tcherechnev, les présidents russes et algériens sont sur le point de signer une déclaration de partenariat stratégique approfondi. La première déclaration sur le partenariat stratégique entre les deux pays a été signée en 2001. Pourquoi ce nouveau document était-il nécessaire?
Un document, bien sûr, nous, parce que
Ce document est certainement nécessaire, car il y a eu plusieurs présidents au cours de cette période. Les choses ont été assez turbulentes et dynamiques en Algérie pendant 20 ans. Il s'agit donc d'un signal adressé aux élites politiques et économiques pour qu'elles concentrent leurs efforts sur le renforcement et la recherche de moyens de développement, de moyens de trouver les bons partenaires avec la Russie. Il ne faut donc pas sous-estimer ces documents, qui sont également très importants pour les entreprises, car ils contribuent à attirer leur attention sur la nécessité d'une telle coopération.
Monsieur Souakri, l'Algérie est sur le point de rejoindre les BRICS. Comment votre pays bénéficiera-t-il de ce groupe et qu'est-ce que l'Algérie apportera à l'association ?
Beaucoup de choses que les autres. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de l'Algérie et il faut donner, il faut être le premier parce que l'Algérie, c'est un continent. Elle occupe un point stratégique, une place stratégique pour l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est un grand pays riche, et riche de sa jeunesse aussi. On a une jeunesse, nous avons 1 million d'étudiants chaque année qui sortent, 750 000 étudiants chaque année. Donc il y a, ça c'est une matière. Elle n'a pas de prix. Donc l'Algérie, elle a tout à gagner avec le BRICS, comme le BRICS, il a tout à gagner avec l'Algérie.
Monsieur Ben Slimane, et que pensez-vous des BRICS et de leur importance pour votre pays, l'Afrique et le monde entier ?
En fait, le BRICS, je pense que c'est important aujourd'hui entre pays, justement, qui viennent un peu de l'histoire des non-alignés, d'avoir un regroupement économique qui puisse justement permettre à ce monde de se rééquilibrer.
C'était Abdennour Souakri, PDG du groupe Souakri, Yacine Ben Slimane, directeur général d'Air Algérie, et Maxime Tcherechnev, membre du conseil général de l'organisation russe Dialovaya Rassiya. Ils nous ont fait part de leurs attentes du forum d'affaires russo-algérien et sur les perspectives des relations entre les deux pays. Chers auditeurs de Maliba FM, le moment est venu de marquer une courte pause. Spoutnik Afrique revient très vite. À tout de suite. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact sur le 99.5 FM. La Guinée célèbre cette année 65 ans de relations diplomatiques avec la Russie. Tout a commencé pour les deux pays le 4 octobre 1958. Les premiers accords ont été signés dans le domaine de la coopération économique et technique, ainsi que dans celui des échanges culturels dès 1959. D'autres documents ont suivi, notamment dans les secteurs du trafic aérien en 1962, de la pêche en 1980, ainsi que dans celui des médias en 1982. Cette année, la tenue du Forum Russie-Afrique pourrait bien élargir encore davantage la coopération entre Conakry et Moscou. Depuis le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l'ambassadeur de la République de Guinée à Moscou, son Excellence Abak Nankoye, et le docteur Alassori Sankon, ministre conseiller, ont exprimé dans quel domaine leur pays souhaite élargir la coopération avec Moscou au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique.
Vous êtes venu aujourd'hui au Forum économique de Saint-Pétersbourg et comme vous savez, cette année, ce forum a pour thème le développement souverain comme fondement d'un monde juste. Donc pourquoi, d'après vous, à l'ère de la globalisation, de plus en plus de pays cherchent-ils à défendre le droit de choisir librement leur voie de développement ?
Merci madame. Nous sommes dans un monde qui est en mutation. Maintenant, et chaque pays voudrait avoir la libre possibilité de choisir ses partenaires, ceux avec qui il peut coopérer dans le cadre du développement de son pays et d'intérêts mutuels. Nos pays ont vécu un certain moment ces moments pourraient être les causes fondamentales du retard qu'ils accusent aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'idée de vivre dans un monde multipolaire où chaque pays pourrait avoir son mot à dire et être considéré dans ce monde semble à tous nos pays qui sont aujourd'hui en retard dans le développement très intéressant.
D'accord. Et pourquoi, selon vous, monsieur l'ambassadeur, le système économique actuel ne satisfait plus aux intérêts de pays en développement?
Le système économique actuel semble ne plus servir les intérêts des pays en développement à partir du moment où, je venais de le dire, depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, nos pays suivent souvent un processus de développement qui ne les permet pas de s'épanouir. Et en ce moment, à l'ère de développement actuel, nos pays souhaiteraient vraiment être libres pour avoir les idées nécessaires qui pourraient les permettre de mettre en application afin d'accéder à un développement réel. Vous n'êtes pas sans savoir que les aides que nos pays reçoivent, souvent sont des aides qui ne nous permettent pas de nous passer de l'aide. Et l'aide qui ne permet pas à un individu de se passer de l'aide, ce n'est pas une aide utile. C'est pourquoi nous sollicitons vraiment de l'aide auprès de nos partenaires, mais des aides qui pourraient nous permettre de se passer de l'aide. Il ne faudrait pas que nous soyons toujours derrière les mains tendues.
D'accord. Et donc ici, vous représentez la Guinée au Forum de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Donc quels enjeux pour votre visite aujourd'hui ici au Forum économique? Pourriez vous en dire un peu plus?
Nous représentons notre pays à ce forum et qui semble être très important pour nous. Les enjeux que nous visons au niveau de ce forum, ce sont les enjeux d'établissement des relations de coopération, non seulement entre la Fédération de Russie et notre cher pays, la Guinée, entre les structures économique de notre pays et les sociétés russes. Voici, c'est l'objectif principal de notre participation à ce forum.
D'accord. Et je vais là citer quelques chiffres parce que en 2021, le chiffre d'échange a atteint 157 millions de dollars entre nos deux pays. Quelle perspective et comment accroître ce chiffre actuellement, selon vous? Dans quel domaine, surtout?
Les perspectives de développement de coopération entre mon pays et la Fédération de Russie sont larges. Il y a le domaine économique, le domaine culturel, le domaine militaire et autant d'autres domaines. Mmh. Donc, nous souhaitons vraiment une large coopération dans presque tous les domaines d'intérêt commun de nos deux pays et au profit de nos deux peuples.
D'accord. Mais quel domaine plus précisément vous intéresse?
Comme je le disais, que ce n'est pas seulement un seul domaine. Il y a le domaine de la coopération. Je veux dire, il y a la coopération économique dans le domaine minière. Mm-hmm. Il y a la coopération dans le domaine infrastructurel. Il y a la coopération dans le domaine de l'agriculture. Mm-hmm. Et même dans le domaine des nouvelles technologies, nous souhaitons établir des contacts avec les partenaires russes pour que ce domaine aussi soit pris en compte dans nos coopérations.
D'accord. Mais il existe aussi le domaine militaro-technique.
Il y a le domaine militaire, ouais, qui est beaucoup avancé, parce que je peux vous dire que à l'instant où nous parlons, nous avons près de 400 élèves officiers qui sont formés dans les écoles militaires russes. Et nous sommes en partenariat avec les partenaires russes pour essayer de renforcer et de fructifier ces domaines. Il y a le domaine culturel aussi qui n'est pas en retard, qui n'est pas... cette année, la partie russe nous a accordé presque 150 places de bourse d'État, que l'État russe accorde aux différents pays. La Guinée a bénéficié de 150 places.
D'accord.
Donc, nous avons un bon nombre d'étudiants qui étudient à base, en qualité de boursier d'État.
D'accord. Et vous discutez dans l'élargissement de quotas ou...
Nous, oui, avec nos partenaires, nous sommes en contact et nous discutons l'élargissement de ce quota.
D'accord.
Oui.
Merci. En ce qui concerne aussi notre coopération donc entre la Russie et la Guinée, cette année, si je m'abuse, on célèbre 65 ans de relations diplomatiques. Donc c'est vraiment l'anniversaire, une date assez importante. Pourriez-vous revenir un peu en arrière pour donc tirer le bilan de ces années passées et puis quelles perspectives pour le futur?
Oui, à 60 ans de rétablissement des relations diplomatiques entre mon pays, la République de Guinée et la Fédération de Russie, nous faisons un bilan très positif dans l'espoir de multiplier les relations établies entre l'ex-Union soviétique avec mon pays. Guinée a bénéficié beaucoup d'expérience à côté avec sa coopération, disons, la coopération avec la Russie.
Mm-hmm.
Nous avons eu, par exemple, la première université de chez nous a été construite par l'Union soviétique. C'est un barrage hydroélectrique qui ont été construits au temps de l'Union soviétique.
Mmh. Un aéroport aussi.
L'aéroport international, ouais, qui s'appelle aujourd'hui Sékou Touré aussi a été fondé par nos amis de l'Union soviétique. Et ce développement et cette coopération a permis également aujourd'hui d'élargir jusqu'au niveau culturel. En Fédération de Russie aujourd'hui, nous avons près de 500 étudiants boursiers.
Mm-hmm.
Et 400 étudiants, comme je le disais, et 400 militaires, stagiaires qui sont en formation dans les écoles militaires russes. Il y a la compagnie russe, on ne peut pas parler de la coopération russo-guinéenne sans parler de la compagnie la plus grande compagnie russe qui évolue dans notre pays. Il s'agit de la compagnie Rusal.
Rusal,
oui. Et aussi, à son tour, nous assiste dans le cadre de la formation de nos futurs cadres. J'ai saisi l'occasion pour remercier sincèrement les autorités de cette compagnie parce que la formation des élites, c'est un avenir perspectueux de notre pays.
Vous avez mentionné les échanges économiques qui sont importants entre la Russie et la Guinée.
Oui.
Et si on parle les échanges, on parle aussi les devises, les monnaies.
Oui.
Donc les monnaies qui servent à croître, à faire...
À procéder à ces échanges.
Oui, à procéder à ces échanges. Voilà, merci.
Mmh.
Par contre, aujourd'hui, on voit que le dollar est souvent utilisé comme une arme par les États-Unis qui pénalisent les autres pays avec des sanctions et d'autres restrictions. Est-ce que vous pensez que qu'il peut y avoir une autre monnaie de réserve qui pourrait servir à tout le monde? Quelle peut être cette monnaie, si vous en avez une idée? Ou donc comment dans le monde globalisé mais multipolaire procéder à des échanges justes et égaux?
Bon, à cette question, je pourrais dire que la Guinée possède une monnaie nationale et presque les échanges. Il est vrai que les échanges entre, par exemple, les deux pays ne se font pas à la base des monnaies locales. Elles se font, comme vous venez de le dire, à travers les devises, principalement peut-être le dollar et l'euro. L'idée d'avoir une vision pour un choix d'une autre monnaie appartient à nos hautes autorités, à elles de décider dans quel domaine il serait mieux, vu la situation actuelle du monde entier, dans quelle devise il serait mieux vers quelle monnaie il serait mieux de s'orienter pour nous permettre de mener les échanges entre nos deux pays. Et je crois que ensemble, en coopérant, nos deux pays pourront trouver une monnaie qui pourrait les permettre de mener leurs échanges mutuels.
D'accord, parce qu'il s'agit des fois d'échanger en monnaie nationale.
Oui.
Est-ce que ce mécanisme pourrait exister entre la Russie et la Guinée? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que, puisque c'est un mécanisme d'ailleurs qui peut faciliter les échanges, je crois que dans le cadre de la coopération, cela n'est pas exclu.
D'accord. Mais d'ailleurs, le président kényan vient de proposer une monnaie africaine, donc pour toute l'Afrique, pour que les pays africains puissent coopérer et échanger en monnaie africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que c'est pertinent actuellement?
À mon avis, toute proposition qui pourrait permettre aux pays africains d'avoir une coopération renforcée ne serait que est la bienvenue. Mm-hmm. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les différentes structures africaines qui existent ont été créées pour permettre de renforcer les liens de coopération et économique, culturelle entre nos différents pays de l'Afrique. Donc toute idée qui pourrait nous permettre de se réunir ensemble ne serait que, je crois, la bienvenue.
D'accord. Mais il y a encore une tendance. Actuellement, vous savez, il y a le groupe BRICS de 5 pays actuellement. Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et un pays africain qui est l'Afrique du Sud. Voilà. Mais d'autres pays africains cherchent à y joindre, comme l'Égypte qui vient de l'annoncer, comme l'Algérie et il y a plusieurs d'autres. Comment voyez-vous les relations avec ce format BRICS entre votre pays et donc les pays des BRICS? Parce que en fait, je vais vous aussi expliquer que ces derniers temps, les voix s'élèvent au sein du groupe pour élaborer également une monnaie commune. Voilà. Donc, comment voyez-vous vos relations avec le groupe?
Nous sommes au début d'un processus que beaucoup de pays observent avec attention et intérêt. Et je crois qu'au moment venu, quand on trouvera que l'idée de l'intérêt de notre pays se situe en intégrant, par exemple, une telle organisation, nos autorités compétentes actuelles pourront prendre la décision.
Mmh. D'accord. Bon, merci.
Oui.
Et encore une question qui est assez importante actuellement, c'est la situation géopolitique autour aussi du conflit ukrainien. Du conflit ukrainien.
Oui, oui.
Parce que peut-être vous savez aussi qu'il y a 6 pays africains qui ont une initiative et qui viennent avec cette initiative cette semaine en Russie pour proposer leur vision de la solution du règlement du conflit. Pourquoi d'abord l'Afrique a pris l'initiative et quelle perspective
L'Afrique ne peut pas rester à l'égard, puisque nous sommes dans un monde déjà globalisé. Et tout ce qui se passe dans ce monde intéresse tous les pays du monde entier. Tout le monde sait, nous savons tous que la situation actuelle autour de du conflit entre la Russie et l'Ukraine ne touche presque chaque pays du monde, d'une manière ou d'une autre.
Et c'est pas forcément le conflit même, mais les restrictions et les sanctions occidentales.
Les retombées, c'est-à-dire c'est pas directement le conflit. Ouais. C'est-à-dire que l'atmosphère, tout ce qui tourne autour de ce conflit, fait que le monde entier est impacté d'une manière ou d'une autre. Et l'Afrique ne peut pas rester à l'égard. Je crois que c'est dans ce cadre-là que la délégation africaine a été formée pour venir exprimer le point de vue des pays africains. Personne ne souhaite la guerre. Il est vrai que chaque pays, l'intérêt de chaque pays doit aussi être respecté. Mais aucun pays, nous souhaitons qu'il y ait la paix dans le monde entier. Et la Russie, je crois, et l'Ukraine, je crois. Ou bien, je peux dire carrément, le peuple russe et le peuple ukrainien ne souhaitent pas faire la guerre. Et si cette situation existe aujourd'hui, je pense que l'Afrique ne peut pas rester à l'égard. L'Afrique doit faire aussi jouer son rôle. Et j'espère que nos représentants africains qui viennent pourront convaincre les deux parties à désamorcer la situation.
D'accord. Et une autre question qui en découle rapidement. La Russie exporte traditionnellement ses céréales ancrées vers les pays africains. Or, aujourd'hui, leur acheminement normal est perturbé par ces sanctions et restrictions occidentales. Et face à ces obstacles, Moscou a envoyé à plusieurs reprises quelques convois, plusieurs d'ailleurs, d'engrais et de céréales à destination de l'Afrique. Comment, d'abord, les sanctions, à votre avis, anti-russes impactent-elles la sécurité alimentaire dans le monde, dans votre pays aussi, donc plus particulièrement? Et que pensez-vous de ce problème et quelles sont les solutions selon vous?
Bon, je vais donner la parole à mon ministre conseiller. Il va essayer de...
Vous savez que cette situation de crise peut être solutionnée dans le bon sens que nos États se mettent autour de la table pour discuter proprement. Et le bienfait de la Russie pour ravitailler ses pays africains en denrées alimentaires est dans le sens d'une coopération économique et commerciale. Donc cela ne devait pas en principe aujourd'hui affecter le processus de transfert. Et je crois que la Russie est sur le bon chemin d'assister ce transfert, malgré les différentes sanctions qui découlent de par le monde.
Voilà. D'accord. Et la toute dernière question, et on termine. Vous savez que le mois prochain, on aura un grand forum. Donc l'événement de l'année, c'est le forum Russie-Afrique. Quelles sont vos attentes et les attentes de votre pays?
Bon, quand on parle de Russie-Afrique, la coopération vient de loin entre, si nous prenons l'Union soviétique et les États africains, depuis les années des indépendances africaines. L'apport de l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, a été très bien salué en assistant les pays africains à accéder à leur indépendance. Parce que vous savez que la Russie n'a pas eu de colonie, mais elle a contribué à la au processus de la décolonisation de l'Afrique. Et donc, en tenant compte de ce sommet Russie-Afrique, à l'image d'autres sommets comme France-Afrique, Japon-Afrique et autres, Le sommet de Russie-Afrique est aussi la bienvenue et nous attendons beaucoup du partenariat russo-africain. La Russie nous a beaucoup aidés et elle continue également à nous aider et nous voulons une coopération et un partenariat gagnant-gagnant.
Très bien. Bon, merci. Merci, monsieur. Et au plaisir de vous revoir au forum merci. De Saint-Pétersbourg.
Merci à Radio Sputnik.
C'était son Excellence Abba Gnankoye, ambassadeur de la République de Guinée en Russie, et le docteur Alassori Sankone, ministre conseiller pour Sputnik Afrique. Ils ont tiré le bilan de 65 ans de relations diplomatiques entre Moscou et Conakry et dévoilé dans quel domaine ils souhaitaient voir la coopération russo-guinéenne s'élargir. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite en attendant à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.